Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Chant contre Chant, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lau, entouré de Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour, bonjour à tous.
De Françoise Lau, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et de Jean-Michel Zucker, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors que dire de ce début d'automne cinématographique? Peut-être avant tout que les poids lourds vus à Cannes arrivent en masse. Ils sont quatre depuis la fin septembre. Il y a d'abord eu Léviathan du cinéaste russe Andrés Zaïtsev. Il y a eu le film de Bernard Tambonello, Saint-Laurent. Il y a eu un peu plus tard Still the Water de la japonaise Naomi Kawase. Et une semaine après est sorti le film sans doute le plus attendu de la rentrée, Mommy, du jeune prodige canadien Xavier Dolan. Bon, on a jugé qu'il serait difficile d'en éliminer un pour rester au nom classique des trois qu'on présente d'habitude, si bien qu'on a décidé de modifier un peu notre maquette et de vous parler de ces quatre films en sacrifiant les habituels coups de cœur. Et nous allons commencer avec le premier de ces films, Léviathan, d'Andrei Zavintiev, sans doute un des films très remarqués du dernier festival de Cannes. Il y a obtenu d'ailleurs le prix du scénario. Alors s'il y a un regard sombre et pessimiste posé sur la Russie actuelle, c'est bien celui d'Andrei Zavintiev. C'était déjà le cas avec ses premiers films, Le Retour, Le Bannissement, Elena. Et puis, on ne peut pas dire que la chose s'arrange avec ce Léviathan, qui montre une Russie soumise à la violence, à l'alcool, à la corruption, et livrée aux mains d'une clique prête à tout pour son pouvoir. Maintenant, le fait que, de l'avis de Zaïtsev lui-même, ce titre de Léviathan fasse référence d'une part au livre de Job et l'Apocalypse de Jean, laisse à penser que l'auteur veut donner à son film une dimension universelle et mythique. Françoise, est-ce que tu dirais qu'il s'agit d'un film sur la puissance du mal?
Sur la puissance du mal, oui, bien sûr, mais plus encore sur la victoire du mal. Une victoire écrasante. On sort de la salle hébété, assommé par le monstre marin, et il faut quelques minutes pour refaire surface, pour reprendre ses esprits, s'interroger. Mais que veut donc montrer Zviagintsev dans ce film noir foncé? Et c'est en relisant le livre de Job, nous dit-il, que le titre de Léviathan lui est apparu. Puis une amie philosophe lui a parlé du livre éponyme de Thomas Hobbes qui a été écrit déjà en 1651 et qui traite de la force légale de l'État face à l'individu. Pour en revenir à Job, à l'instar du personnage biblique, qui subit le mal comme une injustice incompréhensible, le héros du film, Kolia, va tout perdre. Son procès, sa maison, sa femme, son fils, sa liberté et son honneur, rien que ça. Kolia, c'est un brave type. Il habite en Russie, dans les paysages grandioses et glacés du Grand Nord, sur les rivages de la mer de Barents. Il partage sa vie avec Lilia, sa femme, et le jeune Roma, 14 ans, qui est un fils du premier mariage, et pas particulièrement facile. Quant au maire de la petite ville, Vadim, lui, c'est vraiment un méchant, c'est un pourri, il est prêt à toutes les magouilles et il a décidé tout simplement de s'approprier le terrain de Kolia pour y réaliser ses projets financiers. Et malgré le secours apporté par son ami avocat Dimitri, Kolia, bien sûr, perd son procès et Kolia, c'est vraiment l'homme confronté au mal.
Et le mal qui s'acharne.
Le mal s'acharne. Le mal s'acharne, omniprésent, omnipuissant, et en effet, comme si ça ne suffisait pas, le beau Dimitri et Lilia ont une brève liaison qui va rendre Kolia complètement fou. Lilia, elle, est toute désemparée, elle se met à errer sur la falaise, et bien sûr, on retrouvera son corps, inanimé, plus bas, sur le sable. Et alors tout s'enchaîne. Supposition, accusation, magouille, Kolia en prend pour 15 ans. Son fils est recueilli par une voisine, sa maison est détruite par un gigantesque bulldozer. Alors là, la séquence est magnifique. La tête de la pelleteuse s'avance de l'extérieur vers l'intérieur de la maison, donc vers nous, spectateurs, recroquevillés dans nos fauteuils, et elle écrase lentement, méthodiquement, de gauche à droite, puis de droite à gauche, tout ce qui se trouve sur son passage. Les meubles, la vaisselle, les objets quotidiens, les parois, tout s'écroule. C'est le Léviathan en marche.
Et on y croit ?
On y croit, disons qu'on ne se pose pas la question tout de suite. La force des images de Zviagintsev est telle que nous sommes submergés. On est stupéfié, en fait, devant autant de corruption. Le maire qui modifie les règlements à sa convenance. La collusion du pouvoir et du clergé. Le pape qui se met résolument du côté du pouvoir local et qui ferme les yeux sans état d'âme sur des injustices flagrantes. La police de la route, aussi alcoolisée que les automobilistes. Les juges aux ordres du pouvoir. Les pots de vin, qui sont plutôt des pots de vodka. On se demande comment on peut en boire autant. Mais tout est vrai, nous dit le réalisateur. Donc oui, la corruption, on y croit. Mais Zyaginsev n'en fait-il pas un petit peu trop? On pourrait peut-être en discuter maintenant entre nous.
Oui, moi aussi. Enfin, j'ai quand même trouvé que Zyaginsev en faisait beaucoup. Je sais pas, j'ai un peu l'impression d'être face à un poids lourd qui balance une série d'uppercuts à son spectateur et on se retrouve complètement sonné dans les cordes. Mais enfin, quand on se réveille, quand on sort du chaos, on se dit qu'il a quand même exagéré. Il y a trop de violence, trop de corruption, trop de trahison, trop de mensonges, trop d'hypocrisie, trop de vocats. Et ce qui est terrible, c'est que personne ne sort indemne.
Non, mais oui, d'accord, mais c'est normal, c'est la vie. Il montre la dénonciation d'un système où l'homme est complètement broyé par une machine étatique. Moi, je n'ai pas trouvé ça excessif, ce qui est.
Tu trouves ça crédible l'un ou l'autre?
Ah, tout à fait.
Je trouvais que c'était un peu excessif, que les personnages étaient un peu pas toujours crédibles, justement. Non, t'as pas partagé cette idée.
Jean-Michel,
c'est très lourd, mais je crois que c'est conforme à la réalité, en tout cas. Alors, à travers le prisme de Zyaginsev, qui est celui d'un pamphlétaire, et aussi, parce que je crois que c'est une préoccupation extrêmement importante, d'un homme moral. C'est-à-dire que c'est pour moi vraiment ce film un très beau représentant du cinéma de l'inquiétude morale qui est si fréquent à l'Est. Et rappelez-vous toutes les œuvres de Kieslowski en particulier. Et je crois qu'ici, on a vraiment quelqu'un qui s'inquiète et qui s'inquiète pour l'avenir. Parce que si vous voyez les plans qui concernent les enfants qui vont être victimes de ce système, il a raison d'être inquiet, même si il donne une série de percutes aux spectateurs, comme tu l'as dit, Jean.
Oui, effectivement, c'est un peu un film de prophète. Un film de prophète qui fustige le monde comme tous les prophètes, et les prophètes en général ne vont pas de la main morte dans ces cas-là. Hein.
Et oui, la référence à Job n'est pas pour rien. Moi, ce que je questionne un tout petit peu, mais ça c'est un détail, c'est l'attribution du prix du scénario film,
oui,
qui ne m'a pas semblé véritablement s'imposer, parce que on peut penser qu'il y a quelques faiblesses, on peut questionner notamment l'introduction de cette intrigue amoureuse qui débute et puis qui part en quenouille et qui, n'apporte pas énormément, parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en dehors du caractère bien dessiné de Kolia et de Dimitri, les personnages secondaires sont plutôt inconsistants ou des pantins.
Oui, j'ai lu que le scénario avait des fulgurances, sans qu'on dise lesquelles.
Vous avez trouvé il m'a semblé qu'en fait, ça reposait sur une double détente, ce scénario. Il y avait d'une part la trahison de Dimitri et Liana, qui n'est pas du tout annoncée au départ, donc qui fait déjà une espèce de changement dans la trajectoire. Et puis le second changement, la seconde surprise, c'est la façon dont, brutalement, Kolia se trouve accusé de la mort de Lilia. Et je trouve que c'est ça finalement, peut-être,
c'est
les deux
rapide.
Le scénario.
C'est un peu rapide.
C'est un peu rapide,
on n'y croit pas vraiment. Également, est-ce qu'on croit vraiment que Dimitri accepte de monter dans la voiture du maire et de ses acolytes? Il dit, je dois être rentré dans 2 heures. Mais oui, mon brave monsieur, vous allez être rentré. Il se fait tabasser à mort. On se dit, enfin, il est naïf. Un avocat de Moscou.
Un peu invraisemblable.
Ça marche pas, ce truc-là. Moi, j'ai pas cru. Hein.
De même qu'il est un petit peu invraisemblable que les deux Allemands s'isolent comme ça pour aller se mettre à quelques centaines du barbecue pour se sauter. Ça me paraît quand même assez impensable.
Mais justement, ils ne sont pas isolés, hein, parce que pour que les enfants les aient vus, ça marche pas non plus beaucoup.
Ce sont des imprécisions, au minimum.
Oui. Non, ce sont des imprécisions.
Ou des maladresses.
Non, mais c'est vrai que le tragique domine, mais il y a aussi quand même, ce que vous oubliez de dire, des moments d'humour extraordinaires.
Ah oui.
Cette scène
la Kalachnikov contre les portraits des hommes politiques, sauf le dernier, dont on dit il n'y a pas le recul historique
pour pouvoir le canarder.
Ouais. Puis de même que la scène terrible en même temps, où le juge lit le procès,
procès.
Elle est géniale. L'espèce de froideur terrible et très drôle, finalement.
La juge
flot de parole, un flot de parole à une vitesse étourdissante pour lire le verdict. Là, c'est très très bon.
Ah, oui.
Une très bonne scène. Il y a d'excellentes scènes. films.
Oui.
La destruction de la maison, le tir à la Kalachnikov, il y a l'excellente scène.
Mais on peut se demander comment ce film a franchi la censure.
Et moi, j'ai lu que Janis Gaff dit qu'ils n'ont pas dû lire son scénario jusqu'au bout. Ils le pensent, naïf ou pas, ils disent qu'ils n'ont pas lu jusqu'au bout, sinon ça n'aurait pas passé.
En tout cas, il semble que ce ne soit pas projeté encore en Russie.
Non, ça doit l'être, je l'ai noté.
Ça doit bientôt l'être,
le 15 décembre, quelque chose comme ça. Oui, ça va l'être.
Et puis aussi, il y a une critique de l'Église qui est aussi virulente. Ils sont mis vraiment, vraiment dans le même sac.
Hein. Oui.
L'Église et l'État
Même l'Église est corrompue.
Oui. Oui.
Il y a une phrase extraordinaire du pape qui dit au maire, nous travaillons tous les deux pour la même chose, mais nous ne sommes pas dans le même champ. Je trouve ça absolument superbe.
Oui, c'est assez habile, ce niveau-là.
Oui.
Et puis, vis-à-vis de la censure.
Oui. Et puis, il faut dire qu'il y a des images magnifiques également.
Ah oui. Des images de paysages, je trouve ça magnifique, là. La mer, les rochers, on se dirait au Cap Nord. Hein, c'est magnifique comme éclairage.
Mais même les paysages sont corrompus, parce qu'il y a les épaves dans la baie, il y a les voitures cabossées, il y a ces maisons lépreuses, enfin, tout paraît corrompu dans ce film. C'est...
Ouais, ben on vient donc de parler, on va donc laisser un petit peu ce film étouffant et écrasant pour passer un film au contraire très 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 léger, très aérien, qui nous soulève, qui nous transporte. Il s'agit de Stillwater de la japonaise Naomi Kawase. Alors, de Naomi Kawase, on n'avait pas vu rien de véritablement convaincant depuis Chara en 2003. Dans Chara, on s'en souvient, le début c'était la disparition mystérieuse d'un jeune garçon et le film se terminait avec une naissance, justement, qui venait en quelque sorte compenser cette perte et donner lieu à une des scènes d'accouchement les plus extraordinaires jamais filmées au cinéma. Alors, Chara, c'était une extraordinaire ode à la vie. Mais je crois qu'on peut dire également que Still the Water en est une aussi. Et cette fois-ci, le point culminant de ce film, c'est... Ah, ce n'est pas ce coup-ci un accouchement, c'est une scène de mort, pardon, où on voit une femme mourir entourée de danse et de chant dans un moment d'une sérénité et de beauté confondante.
Oui, mais dis-moi, est-ce que le film se déroule dans la même ville que Chara ?
Non. Cette fois, ça se passe au cœur de la nature luxuriante de l'île japonaise d'Amami. Alors, les principaux personnages du film sont deux adolescents. Il y a Kyoko, la fille, et Kaito, le jeune garçon, ils s'aiment, ils ne le savent encore que confusément, ils ne forment pas encore couple, sauf qu'ils sont toujours ensemble, elle souvent debout derrière lui sur son vélo, ça c'est une image magnifique. Elle, Kyoko, est équilibrée, discrètement rayonnante, déjà très mûre, elle est de plus ravissante, ce qui ne gâche rien. Sa mère est une chamane atteinte d'un cancer, et c'est à sa mort que l'on assistera dans la scène que j'évoquais plus haut. Kaito, lui, est plus tourmenté, mal à l'aise dans sa tête et dans le monde. Il vient de Tokyo, où son père, tatoueur, habite, séparé de sa famille. Kaito vit donc seul sur l'île avec sa mère, qui travaille dans un restaurant et s'absente souvent, et du coup Kaito pense qu'elle a des amants. Un jour, plus exactement au début du film, un homme est trouvé noyé dans la mer, à quelques mètres de la plage, il a le dos entièrement tatoué. Et c'est à partir de ces deux douleurs, celle de Kyoko qui sait que sa mère va mourir, celle de Kaito qui souffre de la séparation de ses parents, à partir aussi du mystère de ce noyé dont les tatouages renvoient Kaito à son père, que le film va se construire et que les deux adolescents vont avancer pour finir par se trouver.
Oui, mais est-ce que c'est pas un peu insuffisant pour un scénario, non ?
Peut-être, peut-être. Mais je n'ai pas encore parlé d'un troisième personnage. Le plus important peut-être dans le cinéma de Naomi Kawase, c'est la nature, avec laquelle tous les personnages vivent en fusion. C'est la mer, accueillante comme le giron maternel ou au contraire menaçante quand le typhon la grossit. Ce sont les gifles de la pluie, du vent dans les branches, ce sont les nuages qui défilent sur le bossellement des collines, c'est cet immense banyan, à travers les feuilles duquel la mère de Kyoko voit quelque chose, comme dit son mari. Car elle est chamane, c'est-à-dire qu'elle se tient sur le seuil entre les dieux et les hommes.
C'est donc un film sur l'invisible aussi.
Ben c'est peut-être avant tout un film sur ça. Naomi Kawase, au fond, elle a quelque chose d'une chamane. Elle communique avec l'au-delà. Et au fond, ce dont elle parle dans ce film, c'est de présence agissante dont le visible est habité. C'est du passage continué sans effroi de la vie à la mort. C'est de la chaîne des générations qui se continue sans fin. Bref, c'est un film un peu unique, aux résonances mystiques. Mais c'est un peu comme pour toute mystique. On y entre ou on n'y entre pas.
Oui, et moi j'y suis entrée, justement. Et j'ai trouvé que je l'ai vu deux fois et la deuxième vision a résisté. C'est une grande fresque poétique, cinématographique. Tout est poésie, grâce, délicatesse. La mer déchaînée, puis calme, qui est filmée dans des couleurs proches du noir et blanc. Le bruissement du vent dans les arbres ou la violence du typhon. Les balades, justement, comme tu l'as rappelé, de ces deux jeunes gens à vélo. Les prises de vue sous-marines. Alors, on peut penser que ça fait un peu carte postale, mais non. Naomi Kawase nous montre son île, cette île qu'elle a découverte comme étant celle de ses origines. Alors, il y a une communion de l'homme avec la nature qu'il est bon de rappeler dans nos temps. Et j'ai trouvé qu'il y avait des moments de grande émotion, de tristesse même, au moment où la mère meurt, qui est malgré tout d'une grande sérénité. Elle est entourée de sa famille, de ses amis, de ses voisins.
C'est magnifique.
Qui chante. On est
triste. Un peu critique peut-être, mais magnifique.
Ah, c'est d'une sérénité magnifique. Enfin, on sort de là très, très rassuré sur la vie et sur la mort. Et ce film est finalement un vrai poème philosophique sur la mort, la vie, l'amour.
Mais, François, je crois que toi, tu as moins aimé ce film.
J'ose à peine le dire.
Oh. Exprime-toi.
Non. J'ose à peine le dire, parce que alors moi, je suis ressortie. En effet, je ne suis pas entrée dans le film, et j'étais d'autant plus déçue et blessée que tous les gens autour de moi, les gens dont j'apprécie beaucoup le jugement cinématographique, m'avaient dit « Tu vas voir, c'est magnifique ». J'étais horriblement gênée, je me tortillais sur mon siège en me disant « Moi, je comprends rien, je ne suis pas du tout entrée dans le film, ce type de spiritualité m'échappe totalement, j'en dis c'est un ode à la vie, et moi je dis c'est un chant sur la mort, ça ne m'a pas rassurée du tout, mais du tout. »
Mais dans son esprit, c'est la même chose, ta voisine.
Oui, mais pas dans le mien, c'est le problème. Et il y a quelque chose, alors personne n'en parle, et je vais passer pour une nunuche, mais ça ne fait rien, j'assume. Je trouve que rien, jamais, ne justifie la maltraitance des animaux et en particulier leur mise à mort sous l'œil complice de la caméra. J'ai été infiniment choquée par la chèvre égorgée à deux reprises, deux chèvres, sous l'œil complaisant de la caméra ou du spectateur, je ne sais pas. Et je trouve que, ce qui m'en est resté, c'est que l'agonie de la chèvre n'en finit pas. Je n'en pouvais plus, mais que l'agonie de la mère non plus n'en finit pas, sauf que la mère, elle fait semblant de mourir, et que c'est une actrice qui sait ce qu'elle fait, mais pas la chèvre. Et que j'ai trouvé que ce film, c'est la mort filmée, que ce soit la mort violente du noyé, après tout, ça ne dure pas très longtemps, la mort accompagnée par la chamane, par des chants et des danses, la mort. Alors, on en fait une mort romantique avec des danses et des chants, mais c'est pas ça la mort, ou alors bon. Et enfin, pour revenir à la chèvre, la mort sanglante de la chèvre, non, moi je suis sortie du film et je n'y rentrerai plus.
Je n'ai pas revu le film depuis plusieurs mois, mais ma première impression avait été un peu celle qu'a décrite Marie-Jeanne. Je me suis, j'ai l'impression, fait avoir par ce film. Peut-être, il faut le revoir. Mais je pense que tout ce que dit Françoise me paraît quand même à considérer, parce que il y a une espèce de manipulation, toujours manipulation au cinéma, bien entendu, mais là, il y a un peu une manipulation esthétique ou esthétisante autour de la mort qui, me donne l'impression que c'est quelque chose qui existe dans ce film. Je suis impressionné aussi par une série de beaux plans, mais je remarque également qu'une partie de la presse, de nos confrères, ont souligné le côté métaphysique douteux ou rhétorique amoureuse éthérée dans lequel baigne ce film et s'y sont ennuyés. Donc, j'ai hâte de revoir ce film avec peut-être un certain nombre des auditeurs qui voudront juger de quoi il retourne, parce que c'est tout de même, dans une certaine mesure, un remake ou une façon, une autre version de Chara, dont la fraîcheur était probablement plus impressionnante.
J'avais énormément aimé
Chara. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un film mystique, c'est une musique, on y entre, on n'entre pas dans la mystique. Donc, on y plonge totalement, on la rejette, Dieu la mange. Je crois que c'est un peu ça. Oui. Ceci dit, enfin, même côté mystique, moi, enfin, je suis désolé, Marjane, j'ai quand même un bémol à poser. c'est curieux, dans ce film qui est très silencieux, finalement, je trouve qu'il est trop bavard. Je trouve qu'il y a cet nombre de... Je trouve assez ennuyeux les passages où Naomi Kawase se croit forcée d'expliquer un peu cette espèce de religion, en particulier à travers le père
pédagogique.
De Taito. Pardon ?
D'une façon un peu pédagogique.
D'une façon très pédagogique. Je dois dire que quand j'entends le père de Kaito parler de la valeur du surf et de l'énergie qu'on s'en crée après la vague, moi ça m'agace. Je trouve que ça fait très New Age.
Bon, voilà. Bon,
écoutez, il faut le voir.
Allez le voir. Vous irez à la suite.
Absolument. Ouais.
Parce que je trouve que c'est dans le suggéré qu'elle est la plus forte. Alors là, je marche complètement. Ouais. Lorsqu'elle fait ses plans sur les montagnes, lorsqu'elle fait ses plans de typhon.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Très, très beau.
Ouais. Et de même que ce cheminement sur les vélos, qui traduit symboliquement exactement le cheminement du couple, je trouve ça magnifique.
Je ne suis pas d'accord, François, sur la mort. Les Asiatiques n'ont pas la même conception de la mort que nous.
C'est sans doute pourquoi je n'ai pas entré dans le film. J'ai pas la clé qui ouvre.
Ben oui, mais c'est pas forcément, la mort n'est pas forcément quelque chose de douloureux et de terrible. C'est un passage
paraît-il.
Pour eux. Et là, on voit très bien, elle est chamane en plus. Donc
paraît-il, oui.
Elle passe dans l'autre monde.
Je
et à un
pas.
Moment donné, le père lui dit, ta mère est dans son monde. Elle est allée les dieux.
Je ne connais pas ce dont elle parle.
Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on est bien sensible, même si on ne connaît pas complètement.
Non, mais il me semble que justement cet égorgement de la chèvre, donc que je n'excuse pas absolument pas, mais que je trouve qu'elle vient un petit peu pour compenser le côté aseptisé de la mort telle qu'elle la montre, pour finalement montrer que la mort c'est quelque chose d'une violence absolue et incompréhensible, et que c'est ça finalement que signifie la mort de cette.
Et d'ailleurs, on voit en contre-champ la fille qui regarde l'ébellement de cette chèvre et qui pense certainement à la mort prochaine de sa mère.
Était-ce nécessaire?
Oui, il y avait tout cet environnement mystique et chamanique représente probablement pour les Asiatiques une version locale des soins palliatifs.
Oui.
Ça ne donne pas envie.
Bien, on va s'arrêter là-dessus et faire une petite pause musicale. On va donc reprendre notre débat avec le film de Bertrand Bonello, Saint-Laurent. Alors, Bertrand Bonello tient une place très à part dans le cinéma français. C'est l'auditeur de films comme Tiresia ou comme La Polonide, autant de films troubles, étranges, dérangeants, baignant dans une atmosphère peuplée de fantasmes. Du coup, pour ma part, j'avais une certaine appréhension en apprenant qu'il portait à l'écran la vie du couturier. Que diable allait-il faire avec ce personnage réel, historique ? Et où il risquait d'être emprisonné dans le corset des fées. Et puis également, une autre question se poussait pour moi, sachant que 9 mois avant son film, Jalil Asper avait fait un biopic sur Yves Saint-Laurent. Est-ce qu'on n'allait pas avoir à faire un doublon ? Alors, Jean-Michel, une double question. Bonello a-t-il fait du Bonello ? Et encore, son Saint-Laurent est-il un biopic opposable à celui de l'Espert ?
Bon, alors je voudrais d'abord dire, parce que si je ne disais qu'une chose, une seule chose, ce serait ça, c'est que ce film est une véritable merveille. Le corset des faits.
J'approuve.
Le corset des faits dont tu parles, Bonello n'est nullement emprisonné par eux parce qu'il les transcende en ceci qu'il met leur narration au service d'une sorte de chanson de geste, d'un récit merveilleusement romanesque que lui suggère le personnage. Par ailleurs, ce film, bien loin d'être un biopic qui suivrait linéairement la biographie du héros, se concentre dans un désordre voulu et thématique éclairé par la simple mention à l'écran du millésime sur les années les plus importantes de la vie mythique du créateur qu'il était, du créateur génial qu'il était. Ce sont les années 1967-1976. Pour se plaire même dans la deuxième moitié du film, qui nous surprend encore plus, à établir un contrepoint visuel entre le jeune artiste en pleine possession de ses moyens, malgré ses addictions, et un Saint-Laurent devenu beaucoup plus vieux, usé et désabusé, rêvant à son bonheur passé. Ce film est un film flamboyant, viscontien, impression accentuée par la prestation de Helmut Berger dans le rôle du grand couturier âgé. Et dès le pré-générique, le ton est donné lorsque, presque à la fin de la période de référence, en 1974, Saint-Laurent, épuisé par le travail et les excès, se fait enregistrer sous le nom de Swan dans un hôtel où il prétend tout simplement vouloir dormir. Pendant tout le film, Gaspard Ulliel, qui a travaillé sa voix et sa diction, prêtera admirablement son apparente fragilité longiligne et naturellement maniérée à son personnage presque enfantin, gaucher et timide, mais déterminé, capricieux mais affable, amoureux de sa mère et attendri par son chien Moujik, qui vivra un grand amour avec son fidèle compagnon Pierre Berger, auquel Saint-Laurent confiera la direction administrative et financière de l'entreprise, ce dernier étant interprété par un Jérémy Régnier que je trouve personnellement très convaincant.
Enfin, tu parles de fidèle compagnon, mais enfin, Saint-Laurent n'a pas vécu comme un petit saint dans ce domaine.
Certes. L'alcool et les diverses drogues ont été son pain quotidien et ses aventures sexuelles avec les garçons ont dû être nombreuses, suscitant la colère et quelquefois la vindicte de Berger, comme cela est montré dans le film. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'une part, ses relations, en dehors de la plus pitoyable d'entraide avec Jacques de Bachère, mignon, méprisable, qu'incarne à merveille Louis Garrel, sont souvent plus suggérées qu'étalées, y compris avec Pierre Berger. Et d'autre part, le besoin d'amour d'Yves est si criant et si pathétique qu'il en est constamment touchant. Surtout, ses excès ne font que rehausser son génie professionnel, magnifiquement imagé par les nombreuses et fascinantes scènes en atelier, rendues possibles par la documentation minutieuse à laquelle s'est astreint le cinéaste, et les brillantes scènes de défilés de mannequins lors des collections emblématiques dont nous nous souvenons, Libération de 1971 et Ballet Russe de 1976.
Mmh. Je reviens à ma question là. Qu'est-ce qui fait de ce film un film de l'auteur Bonello ?
Pour moi, c'est la conjonction de la préoccupation musicale et picturale à un degré rarement atteint chez d'autres auteurs et au sommet de son art chez Bonello lui-même. En effet, la mise en scène, la composition est musicale et le montage entraîne des séquences de durée, d'intensité et de registres très différents, tout comme le musicien Schoenberg et ses élèves l'ont pratiqué au début du XXe siècle. De fait, on sait que Bonello est musicien lui-même autant que cinéaste. Il nous offre ici un festin somptueux de musique classique qui culmine lorsque Saint-Laurent écoute en boucle Callas dans Puccini. Là, le couturier avait coutume de dire qu'il était un peintre raté et ne se consolait pas de ne pas être Matisse. Dans le film de Bonello, cependant, la picturalité, lumière et couleur de très nombreuses scènes est frappante et culmine avec un travelling sur des œuvres à dominante rouge d'Andy Warhol, dont on entend la voix off à ce moment-là, et la prodigieuse et longue séquence onirique pré-finale dans laquelle Saint-Laurent est hanté par des défilés de collections qui envahissent l'écran en autant de fragments obsédants.
Oui, personnellement, je te rejoins entièrement sur la magnificence du spectacle offert par Bonello. En fait, j'avoue que j'étais fasciné par ce film, entre autres pour cette splendeur visuelle que tu soulignes très bien. Mais à côté de cette richesse picturale, mais s'appuyant sur elle, la justifiant, j'ai été infiniment sensible au côté proustien du film.
Swan,
bien sûr. Mais du coup, beaucoup ont dit dans les sortes de réflexes, c'est la recherche du temps perdu. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, je trouve où il est très proustien, c'est dans sa tentative de saisir le côté éphémère de la beauté. Le fait que la beauté disparaît aussitôt que née est toujours poursuivie. Il dit Saint-Laurent dit dans le film, la mode passe, le style reste. Et le style, c'est justement cette espèce de tentative à la Sisyphe de sans cesse recommencer collection à collection pour saisir la beauté de la femme. Enfin, je crois, Marie-Jeanne, que tu ne parles pas
alors,
du tout de cet avis.
Marie-Jeanne n'en peut plus. Du tout, du tout. Alors, certes, dois dire que, comme dans Stillwater, on entre ou on n'entre pas, là, je ne suis pas du tout rentrée. Alors, certes, Bonello a choisi une courte période, on le sait, 67, 76, mais il nous montre un Saint-Laurent débauché, déprimé, se vautrant dans le stupre et le luxe, et la portée. Mais oui, toujours dans ses boîtes de nuit, ennui insupportable et la portée artistique du phénomène X Saint-Laurent lui a complètement échappé, à mon avis, hein, l'apport de ce créateur.
Pas du tout.
Il a révolutionné la mode féminine, l'image de la femme.
On ne le voit pas, on le lui doit. On ne le voit pas dans le film.
Le temps de stupre n'est pas très long.
Heureusement
qu'il est là.
Et il passe du stupre à la plus magnifique
création. Je ne suis pas d'accord.
L'apport de ce créateur à sa discipline, à son art, et justement ce qu'on en sait, n'est pas du tout mis en valeur. On a l'impression que Bonello a choisi le petit côté de la borgnette pour nous le montrer, le petit côté de la lorgnette, pardon.
Comment peut-on dire ça?
Pour nous le montrer. Alors, il était de son temps, certes, un peu décadent, mais encore une fois, toute la dimension artistique de son génie a été, à mon avis, tout à fait escamotée.
Tu ne vois pas comment il anime une équipe de couturiers?
On a l'impression qu'il ne travaille jamais, il s'ennuie, il nous ennuie. Et alors, je n'ai pas la naïveté de penser que le talent est équivalent à quelqu'un de bien dans la vie. L'histoire littéraire nous a assez montré avec les Céline et Comme le temps passe.
François Villon,
François. Moi, je suis désolée, Marie-Jeanne, désolée, je vais essayer de te convertir au film, je ne vais pas y arriver. J'en suis sortie émerveillée, je suis toujours émerveillée. C'est la plus belle, c'est la plus forte émotion cinématographique que j'ai ressentie depuis au moins un an, sinon bien plus que ça. C'est un film sidérant.
Tu dis ça souvent. Bon,
sidérant, fulgurant, on en sort choqué par tellement de beauté. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas une scène qui ne soit frappée du génie de Bonello. J'ai trouvé, c'est un film visionnaire, c'est une mise en scène magnifique. J'ai aimé le personnage.
Visionnaire, en quoi est-ce que c'est visionnaire? Ça montre un personnage dans le monde de la création.
Moi, je trouve que c'est un hommage à la beauté, ce film en permanence.
C'est un hommage à la beauté au cinéma. Comme on a quelquefois dans les films de Carax aussi. C'est une splendeur cinématographique dans la façon de combiner. On pourrait citer chaque plan, chaque séquence, qui sont une merveille qu'on a envie de repasser, comme disait Jean, en boucle.
Je parlais de film mystique tout à l'heure pour Kawase, mais je dirais que d'une certaine façon, ce film aussi est un film mystique.
Parce que
Bonello, c'est avant tout le cinéaste qui est fasciné par les extrêmes. Et il les fait se rejoindre, disant qu'au fond, les extrêmes, c'est la même chose. Il y a d'un côté l'extrême de la beauté et de la création, c'est le bien. De l'autre côté, l'extrême du sordide, du destructeur et de la décadence, c'est le mal. Et Bonello, c'est toujours ça. D'ailleurs, à sujet de ce film, il dit bien qu'il a voulu faire côtoyer le côté très haut et le côté très bas du créateur. Parce que le très haut n'existe pas sans le très bas. Et je crois que ça, c'est une grande force du film.
Oui, moi, le très bas m'a gêné. Ça a détruit mon idole.
Mais le très bas, je voudrais faire insister sur le fait qu'il est souvent elliptique. Rappelez-vous, la scène où on voit au début Saint-Laurent se promener dans les rues, dans la pénombre, il y a des jeunes garçons qui sont là. Ça dure 15 secondes, on a tout compris. Il n'y a aucune insistance.
Oui.
Tout à fait.
Non, vous ne m'avez pas convaincu.
Eh bien, on va continuer avec le film suivant qui, je crois, t'a davantage convaincu. On va terminer avec le film événement du moment, qui était déjà d'ailleurs le film événement de Cannes. La rumeur le voyait primé, il est revenu avec le prix du jury. Je vais bien sûr parler de Mommy du réalisateur canadien Xavier Dolan. Il a 25 ans, il a déjà réalisé 5 longs métrages, c'est-à-dire qu'il a commencé très tôt et qu'il tourne très vite. Le premier de ses films étant « J'ai tué ma mère » en 2009. Ensuite, il y a eu « Les amours imaginaires » en 2010, « Laurence Anyways » en 2012, « Tout à la ferme » en 2013, et cette année « Mommy », avec chaque fois un grand retentissement médiatique et un succès public qui ne cesse de croire. Ajoutons, pour compléter le tableau de cette hyperactivité, que Xavier Dolan est lui-même le producteur de ses films, qu'il en fait le montage, qu'il a tourné en outre comme acteur dans une quinzaine de films, et de la vie générale, il progresse de film en film. Mommy tente à ce jour son meilleur film. Un phénomène donc, un surdoué, une tornade. Marie-Jeanne, est-ce ainsi que tu le vois ?
Eh oui, le magicien Dolan a encore frappé, comme l'écrivent certains. Et je dois dire que, tant chez les spectateurs que chez les critiques, c'est un concert quasi unanime d'éloges, surdoué, brillant, prodige, génie, petit prince du cinéma. On le voit, les adjectifs, le datif ne manquent pas d'ailleurs. Et ça agace un peu notre jeune réalisateur.
Alors, quel est le propos?
Oui, alors
film,
le propos, j'allais le dire. Le propos, c'est Diane, ou Die, incarnée par Anne Dorval, qui est une belle femme dans la force de l'âge, pleine de vitalité, de bagout. Elle est tatouée, déjantée, haute en couleur, avec un langage cru et fort peu châtié. Elle se maquille beaucoup, s'habille très sexy, avec une audace d'ailleurs que l'on reconnaît comme étant celle de son costumier, c'est-à-dire de l'âne. Elle doit récupérer son fils Steve, qui est incarné par Antoine-Olivier Pilon, qui se fait renvoyer d'un centre où il était enfermé parce qu'il a provoqué un incendie qui a blessé grièvement un de ses camarades. Alors, ce Steve est gravement atteint de troubles du comportement, de l'attachement, passe par des phases d'une violence paroxystique à des moments de calme et de grande tendresse. La vie de Diane, bien sûr, va en être bouleversée. Elle perd son travail, tente de survivre avec ce fils si difficile et si attachant. Alors, survient dans ce duo infernal et parfois inquiétant une voisine qu'il a, incarnée par Suzanne Clément, qui est une professeure des écoles qu'un événement de sa vie, qu'on nous laisse parfois à un moment donné deviner, a rendu bègue. Elle va mettre de l'huile dans les rouages compliqués de cet amour filial. Elle aussi porte ses blessures et ce qui fait la force de ce film, c'est la fusion de ces trois êtres massacrés par la vie et qui nous tiennent, ce film nous tient deux heures durant dans la crainte de leur futur et dans l'espoir que l'amour peut tout.
Bon oui, c'est effectivement un trio assez paroxystique. Alors, comment Xavier Dolan le met-il en scène?
Alors, écoute, de manière très originale, alors je le cite, pour être proche des personnages, pour être près du cœur, pour qu'il n'y ait pas de distraction à gauche, puis à droite, fermez les guillemets, il a audacieusement et astucieusement utilisé un cadrage 1:1 que l'on n'utilise plus guère depuis le cinéma muet. C'est un carré étroit qui nous oblige à regarder dans l'intimité des êtres et des sentiments et qui élimine le flou du contre-champ. Et ce cadrage est utilisé dans l'essentiel du film, c'est-à-dire au moment de violence, de doute et de grande agitation. En revanche, à trois reprises, Dolan élargit l'écran sur un mode beaucoup plus conventionnel, c'est-à-dire que le cadrage s'élargit lorsque précisément l'horizon s'élargit, lorsque la vie semble sourire, lorsqu'on respire au moment des sorties à trois, heureuses, pleines d'un bonheur qui est contagieux et jubilatoire, ou lors de cette scène si émouvante où Die imagine l'avenir de son fils, joué d'ailleurs adulte par Dolan lui-même, avec remise de diplôme, mariage et enfant.
Alors, comment tu as trouvé l'interprétation de ces trois personnages?
Bien sûr, on ne peut terminer cette analyse sans ajouter que ce film est remarquablement aidé par l'interprétation magistrale d'Anne Dorval et de Suzanne Clément, qui sont les actrices fétiches du réalisateur, depuis d'ailleurs son premier long métrage, J'ai tué ma mère, et bien sûr du jeune Antoine-Olivier Pilon, qui a juste 17 ans dans la réalité, yes, et qui est très juste dans un rôle aussi difficile.
Oui, je ne suis pas sûr que Xavier Dolan soit si agacé que ça partout, la publicité faite autour de lui. Je crois que c'est un peu de la coquetterie, il me semble que c'est très bien se médiatiser. Bon, enfin, pour revenir au film, je dirais que je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur son film. Personnellement, moi, ce qui m'a le plus touché et impressionné dans Mommy, c'est la façon dont il force le changement du regard du spectateur. Au début, on a l'impression d'une espèce de comédie déchantée, difficile à supporter en raison de sa bande-son agressive, en raison du côté hystérique de l'interprétation, du langage souvent scato, et comme tu l'as dit, du frustrant format carré. Et puis, petit à petit, on se rend compte que derrière le côté énorme de la farce, on est enfin dans une tragédie, dans une histoire d'amour bouleversante et impossible. Et tout à fait, du coup, le film prend toute sa dimension.
Oui.
François, tu...
Moi, j'ai rien à dire contre ce film. J'ai réfléchi en essayant de trouver quelque chose, mais j'ai rien trouvé. Et je suis sortie extrêmement émue, en n'ayant jamais l'impression d'avoir été manipulée, ce qui est parfois le cas de l'émotion, des films émouvants. Je ne me suis pas sentie manipulée, je me suis sentie attachée à cette relation tout à fait hors norme, extraordinaire, entre une mère et son fils. Et quand tu dis que l'idée fondamentale, c'est que l'amour peut tout, j'ai trouvé ça, en effet, exprimé avec une grande force dans le film. Et j'ai particulièrement aimé la dernière séquence, quand on voit le jeune garçon qui s'enfuirait. Cette fin est ouverte, on a tellement envie que ce jeune garçon s'en sorte, et on se dit, mais alors, est-ce que c'est fantasmé, est-ce que vraiment il va retrouver une forme de liberté, est-ce que lui va trouver une vraie vie à vivre? Et j'ai été Je suis sortie avec plein d'images dans les yeux. Je n'ai que des compliments à faire dessus. Je suis désolée. Hein.
Oui, mais écoute, ça arrive. Moi, j'ai mon petit bémol tout à l'heure. Jean-Michel.
Non, moi aussi, j'ai des compliments. Je voudrais simplement dire que ce qui est très impressionnant, c'est que dans ces 5 films que tu as cités, il est presque toujours en train de questionner le lien maternel, le lien entre son fils et sa mère. Dans le premier, j'ai tué ma mère, et c'était véritablement tout à fait autobiographique, il le dit, il n'y a pas de mystère. Dans celui-ci, il s'en éloigne, mais il continue à creuser ce lien qui, pour ma part, moi, me semble ressortir au moins en partie d'un lien qui va jusqu'à un paroxysme incestueux, comme il y en a plusieurs témoins sur les images du film, mais qui ne me gêne pas du tout, mais qui est une composante de pulsionnelle de ce jeune homme, qui est resté un enfant à bien des égards, et qui vit ces pulsions primitives. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'introduction d'une médiatrice qui est Kila, qui a son propre mystère. Elle a probablement eu aussi, elle, dans son enfance, une histoire qui tourne autour du sexuel, et qui actuellement voit son bégaiement osciller selon les phases émotives de sa vie, et qui est une espèce de médiatrice et d'intermédiaire pour ce jeune homme vis-à-vis de la croissance qu'il pourra faire. Elle me paraît être très bergmanienne, cette héroïne.
C'est un catalyseur. Ouais.
C'est un catalyseur, tout à fait.
C'est un catalyseur, elle prend sur elle les énergies qui se développent de façon folle à l'extérieur, elle le prend sur elle, c'est étonnant.
Oui, comme et personnage. Pour reprendre ce que tu disais à propos du lien de Xavier Dolan avec sa mère, il a dit lui-même, dans le premier film, j'ai tué ma mère, cette fois je voulais la défendre et la ressusciter en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce à quoi seront sensibles les spectateurs, c'est à l'énergie. De ce film de tous les instants, oui. Énergie qui va même, comme l'a dit Jean, jusqu'à pouvoir agacer par une espèce d'hystérie, oui. Mais il faut dépasser cette réaction d'agacement pour apprécier ce film.
Et puis, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est sa maîtrise de la caméra. Je trouve ça absolument extraordinaire. Parce que ça fait un certain temps qu'on voit des gens qui utilisent des caméras légères, ça date un petit peu de Rosetta et des Fer Ardennes, mais chaque fois, quand on compare leur utilisation des gens par rapport à cette Xavier Dolan, je trouve que c'est presque du balbutiement par rapport à ce que fait Xavier Dolan. On a l'impression qu'il a une caméra dans la tête, ce type. On a l'impression qu'on oublie complètement qu'il y a quelqu'un en train de filmer.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il a eu le prix ex aequo avec Godard. Et que ça représente quelque chose qui est une consécration extraordinaire symboliquement.
C'était très beau, ça, symboliquement, ce rapprochement.
Le vieux génie, le jeune génie.
Très émouvant, très émouvant de les voir tous les deux. Oui.
Alors, je voudrais dire deux mots sur la musique. Il ne laisse rien au hasard dans ses films, puisque c'est lui qui a choisi soigneusement cette musique, et cette musique qui est celle de son temps, des années 90. Et je trouve que un des moments les plus beaux du film, qui est le moment charnière, c'est lorsque Die, Steve et Kila dansent sur la chanson de Céline Dion, On ne change pas, qui fait ainsi sauter tous les blocages et toutes les réserves. C'est magnifique, cette scène.
Oui,
et à partir de là, ça bascule.
Oui. Très belle scène.
Et là aussi, la musique est en permanence intégrée
à l'image. En permanence.
Elle est toujours diégétique, comme on dit, mais effectivement, elle...
Oui. Je ne sais pas si on retrouvera 4 films aussi passionnants dans nos séances futures, je l'espère.
On peut avoir... Il est à l'extrême, au bout d'un cycle maintenant, puisque comme tu dis, en fait, ces 5 films, une espèce de parenté. Peut-être que maintenant, il va faire autre chose. Bon, on verra bien. Bien, je crois qu'il est temps que nous quittions. Merci à Marie-Jeanne, merci à Françoise et à Jean-Michel. Merci à Catherine qui a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui Chant et Contre-Chant et Profil disent à la prochaine fois. Notre émission aura lieu le mardi 25 novembre de 13h15 à 14h.